Bonjour à tous, aujourd'hui on va revenir sur la plus grosse actualité de la semaine, peut-être même la plus grosse actualité du mois en Australie, c'est bien sûr la dénonciation par Scott Morrison du contrat qui liait le gouvernement australien à la France et à Naval Group pour la fourniture de 12 sous-marins. Scott Morrison a annoncé jeudi qu'il finalement se tournait vers des sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre d'un rapprochement militaire avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Alors, pour en parler avec nous aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Romain Fatty. Vous êtes historien à Flinders University, mais également au Centre d'histoire de Sciences Po. Bonjour.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Alors, ce retournement de la part de l'Australie vis-à-vis de la France a été une surprise totale. On a vu qu'à Paris, ça a provoqué des réactions vraiment ulcérées de la part du gouvernement, Jean-Yves Le Drian, Florence Parly, enfin un petit peu tout le monde. C'était vraiment une surprise totale, ce changement de stratégie de la part de l'Australie.
Alors, je vais peut-être vous choquer. Du point de vue de la France, c'est une surprise, effectivement. Nous, on voit ça comme un retournement. En revanche, moi, en tant qu'historien de l'Australie, eh bien, je ne le vois pas tellement comme un retournement. La dénonciation du contrat, effectivement, très très mauvaise pour l'Australie pour tout un tas de raisons. Mais si on pense à l'Australie du XXe siècle, il faut se rappeler déjà, bon, ça tout le monde le sait, que l'Australie est un ancien dominion britannique, qu'il se fédère en 1901, qu'ils sont protégés par la Grande-Bretagne militairement, qu'ils servent dans l'armée britannique lors de la Première Guerre mondiale. Les liens sont très, très, très forts avec la Grande-Bretagne. Jusqu'en 1942, où la Grande-Bretagne, sujette aux maux de la Deuxième Guerre mondiale, les abandonne et retire la flotte de Singapour. Les Australiens en ont gardé un souvenir absolument catastrophique encore aujourd'hui. Vous parlez à des Australiens d'un certain âge, ils vous en parleront. Et en 1942, le Premier ministre australien, Curtin, fait un appel à l'Amérique. Demande à ce que l'Amérique vienne aider l'Australie. À l'époque, les Australiens ont l'impression, qui est fausse, mais ça on le sait maintenant, puisque le bénéfice du temps fait que nous avons ces informations, les Japonais n'ont jamais voulu envahir l'Australie. Mais à l'époque, les Australiens sont convaincus que les Japonais vont les envahir. Ils ouvrent la porte à l'Amérique, et en 1942, une personne sur huit sur le continent australien est un soldat américain. Faut bien se représenter ce que ça veut dire. Depuis 1945, le Pacifique, c'est l'Amérique. Alors certes, il y a la Polynésie française, certes, il y a la Nouvelle-Calédonie, mais la présence militaire américaine dans le Pacifique est énorme. Il faut aussi se souvenir que l'Australie est un maillon absolument clé dans le système de défense antimissile et dans le système d'écoute américain pendant la plus grande partie de la guerre froide. À partir des années 70, l'Australie est une cible en cas de guerre nucléaire pour l'URSS. Tout ça a été très bien expliqué par les historiens australiens, tout ça est bien connu. Donc la relation avec les États-Unis, qu'on peut déplorer certainement la manière dont le contrat a été annulé, est vraiment catastrophique en termes d'image et de relations publiques. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que la relation d'une part entre la Grande-Bretagne est filiale, et la relation avec les États-Unis, elle est culturelle et elle s'inscrit dans toute une série de conflits. Les Australiens se battent auprès des Américains, en Corée, au Vietnam, en Irak, en Afghanistan. Ils ont un traité, l'ANZUS, avec eux depuis le milieu des années 50. Donc il ne s'agit en aucun cas d'un retournement. En réalité, il s'agit simplement d'un retour vers le giron états-unien. La France a représenté une option pendant quelques années, mais la Chine faisant monter la pression sur l'Australie, les Australiens sont retournés vers, disons, leur principal allié dans le Pacifique et certainement celui qui a la plus grande présence militaire dans cette zone.
Donc un retour à la normale, autant pour les États-Unis, ça reste largement compréhensible, ça reste malgré tout la première puissance mondiale, un allié comme vous l'avez souligné depuis la Deuxième Guerre mondiale et même un petit peu avant. Pour la Grande-Bretagne, alors évidemment il y a les liens historiques qui lient les deux pays, mais la Grande-Bretagne, c'est aujourd'hui un pays qui se replie sur lui-même, qui vient de sortir de l'Union européenne. Attachement, il est plus surprenant. Est-ce que c'est vraiment un bon coup de la part de l'Australie ?
Alors, c'est une excellente question et je vais vous répondre par deux biais. Le premier, il est culturel. On voit la renaissance du camp que nous, on appelle anglo-saxon. Les anglo-saxons eux-mêmes détestent ce mot, mais nous, on se représente les anglo-saxons comme effectivement les Anglais, les Canadiens, les Australiens, les Américains. Il y a une renaissance de ce monde et c'est vrai que c'est un vrai challenge pour l'Europe. Comment on va réagir? Le vrai problème, en fait, c'est pas la relation entre Paris et Canberra. Je veux dire, Canberra, voilà. La relation, c'est le problème, ça va être entre Paris et Washington. Le retour vers la Grande-Bretagne pour l'Australie peut effectivement paraître singulier. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, le gouvernement Turnbull et le gouvernement Abbott avant lui se sont tournés vers la France en voulant diversifier leur partenariat dans le Pacifique, qui était certainement le mouvement politique et diplomatique le plus important de la seconde moitié, enfin du début plutôt du XXIe siècle, pour l'Australie. C'était inespéré pour la France, mais ça montrait que l'Australie souhaitait diversifier ses partenariats et s'asseoir à la table du Concert des Nations en tant que nation souveraine. Là, on voit qu'il y a un rétropédalage de la part du gouvernement Morrison, pour plein de raisons. Je pense tout d'abord qu'il y a une raison liée à l'électorat. L'électorat du Parti libéral est très attaché aux valeurs britanniques. On se rappelle du grand leader du Parti libéral, John Howard, qui a fait capoter le référendum sur la République, qui est pro-monarchie, qui ne manquait pas une occasion de se rendre à Buckingham. Il y a toute une partie de l'électorat australien, même dans une Australie qui est quand même très multiculturelle, qui s'arc-boute sur des valeurs archaïques, identitaires, liées à cette connexion avec la Grande-Bretagne. Et ça parle à une frange un peu radicale et très conservatrice du Parti libéral. De ce point de vue-là, c'est tout gagnant pour Scott Morrison. C'est-à-dire qu'il flatte son électorat conservateur, pro-Angleterre, aux valeurs très british, et ça permet de faire le lien avec les États-Unis. Parce que généralement, ce même électorat voit un peu l'Amérique comme un grand frère très peu éduqué. Donc, le deal avec l'Australie, Angleterre et États-Unis, c'est le trio parfait pour l'Australie, parce que vous satisfaisez à différentes branches de l'électorat libéral. Et puis, par ailleurs, je pense que Morrison s'est fait très fortement influencer par Boris Johnson. On peut en penser ce qu'on veut. Ça reste un homme politique d'un certain calibre. Et je suis convaincu qu'il a réussi à argumenter pour un rapprochement vers l'Angleterre, une sorte de revival du Commonwealth. C'est un peu l'argument de bataille de la Grande-Bretagne depuis le Brexit, en disant on va faire renaître l'Empire, bon, ils n'utilisent pas ce mot parce que c'est très péjoratif, mais on va faire renaître le Commonwealth, on va redynamiser le marché d'échange entre nations du Commonwealth, mais c'est un vœu pieux, je veux dire, il n'y a pas les moyens en termes de transport, de communication, tout ça c'est très compliqué, c'est des belles déclarations. Là, l'Australie risque tout simplement de se faire taper les doigts comme l'Angleterre vis-à-vis de la négociation des traités de libre-échange avec l'Europe, qui sont en cours en ce moment même. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un moment judicieux pour l'Australie de donner un soufflet à la France.
Alors justement, la France, je voulais y venir maintenant, on va laisser les Anglos de côté. Évidemment, en termes de relations bilatérales, à côté de l'ancienne puissance tutélaire, la Grande-Bretagne ou les États-Unis, c'est difficile de s'immiscer. Mais depuis la signature de ce contrat, désormais annulé en 2007, il y avait eu un très fort rapprochement, signature d'un pacte stratégique, de partenariat stratégique, encore tout récemment l'annonce d'une coopération militaire renforcée et puis aussi d'autres coopérations sur d'autres thèmes dans le domaine universitaire, culturel, etc. etc. Est-ce que ce coup en traître remet tout en cause?
Alors, je vais vous donner une réponse personnelle et une réponse universitaire. Ma réponse personnelle serait, si vous m'excusez, qu'il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça va être très dur pour la France d'encaisser cette, très clairement, ce qu'est une humiliation. Mais il ne faut pas sacrifier à notre, comment dirais-je, à notre image de nous-mêmes des choses exceptionnelles qui ont été accomplies par nos deux gouvernements dans les années passées. Il n'y a pas que Naval Group, il y a tout un écosystème. On a vu des accords entre les écoles, on a vu des accords entre les universités, on a vu des entreprises de nouvelles technologies venir s'installer en Australie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses positives qui se sont greffées au contrat Naval Group. Maintenant que Naval Group va probablement partir ou réduire sa voilure, il ne faudrait vraiment pas qu'on sacrifie tout ce qui a été fait de bien entre l'Australie et la France ces dernières années, parce que je pense que ça peut bénéficier à nos deux nations sur le moyen et puis sur le long terme. En tant qu'universitaire, la vraie question, ça va être comment la France va repenser sa stratégie géopolitique dans le Pacifique sans le maillon australien. Parce que là, très clairement, il va y avoir un gros souci. Et je vais juste expliquer quelque chose. Pour un Français, ce qu'il y a de plus important pour une nation, c'est sa souveraineté. L'idée de souveraineté, en Europe continentale et particulièrement en France, le produit de la Révolution, elle est fondamentale. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, l'Australie n'a pas... Ce qui ne compte pour elle, c'est pas vraiment la souveraineté, c'est la sécurité. C'est la sécurité, qu'elle soit réelle ou non, hein, face à la Chine que peuvent leur apporter les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais en fait, la Royal Navy, ça ne compte plus aujourd'hui. Donc, il y a vraiment cette idée que c'est pas grave si des décisions de Canberra sont prises à Washington, ce qui nous paraîtrait absolument aberrant. Mais pour eux, ils savent bien que c'est un petit pays, 26 millions d'habitants, ils n'ont pas de force de frappe nucléaire, ils n'ont pas de nucléaire, il y a plein d'industries qu'ils n'ont pas. Donc, ils se disent, voilà, c'est un trade-off, on coupe un peu sur notre souveraineté, mais en même temps, on s'assure une certaine sécurité. Et là où ça va poser problème, c'est que la France ne sera probablement pas prête à rentrer dans ce jeu avec les États-Unis. On ne veut pas partager un certain nombre de secrets militaires, on ne veut pas partager ou compromettre certaines relations diplomatiques que l'on a avec des pays du Pacifique chez lesquels les États-Unis ne sont pas bien vus. Donc en fait, ça va être très très compliqué pour la France d'être un acteur majeur dans le Pacifique, parce que le choix qu'on lui propose, c'est vous vous alignez ou vous êtes toute seule. Et là, il va falloir que le Quai d'Orsay déborde d'imagination pour trouver des solutions alternatives qui, à la fois, ne détériorent pas plus les relations qu'elles le sont en ce moment et qui vont permettre à la France de continuer de maintenir une présence. Moi, j'ai l'impression que les Australiens se disent toujours que la France dans le Pacifique, c'est pas pour toujours. Ils ne comprennent pas que
On y est quand même depuis français. 150 ans, ouais, c'est ce que j'allais dire.
On y est aussi longtemps que... Il faut leur rappeler que l'Australie, c'est une terre qu'ils ont volée à des gens qui étaient là et avec lesquels ils ont encore beaucoup de problèmes. Les Français, dans le Pacifique, la Polynésie est française. La Nouvelle-Calédonie a récemment voté et à plusieurs reprises pour continuer son engagement avec la République. La nation est une et indivisible. La France ne va pas partir demain du Pacifique. Et donc, ça va être un réel enjeu dans les mois et certainement dans les années à venir pour que la France puisse maintenir son rang et quand même grandir dans le Pacifique sans avoir à s'aligner avec le bloc anglo-saxon tel qu'on le connaît et qui pourrait nous entraîner vers une détérioration de la relation avec la Chine. Ça va être vraiment ça la question principale. C'est quelle est la position de la France par rapport à la Chine et ses ambitions dans le Pacifique?
Alors justement, sur cet isolement de la France dans cette partie du monde, l'Australie, c'est vrai que d'une certaine manière, c'était un peu l'allié naturel. C'est aussi un pays démocratique, valeurs occidentales, etc., etc. Est-ce que la France pourrait dès lors se tourner vers des partenaires peut-être moins évidents en Asie du Sud-Est, dans cette partie-là du monde plutôt, se tourner du coup plus vers le continent asiatique que vers les autres pays de l'Océanie. De toute façon, après, il reste la Nouvelle-Zélande en gros, mais...
Alors, ça c'est une autre très bonne question et je pense que ça va être assez compliqué. La Nouvelle-Zélande paraît un très bon choix, sauf qu'ils sont profondément anti-nucléaires. Et que on se rappelle encore des essais nucléaires sous le gouvernement Chirac. Donc on a et puis le Rainbow Warrior, je veux dire.
Ouais, on leur a pas laissé des très bons souvenirs, voilà. C'est vrai.
C'est ça. Donc on est un petit peu grillé en Nouvelle-Zélande. C'est pas pour toujours, je veux dire. Les relations ont des hauts et des bas et ça pourrait s'améliorer. Mais quel serait l'intérêt ? C'est un petit pays qui est quand même encore très loin du reste du monde, mais ça pourrait ne pas être une mauvaise décision. Quant à l'Asie du Sud-Est, oui, mais encore une fois, quel est notre poids économique et culturel dans cette région du monde ? Les partenariats, ça ne s'établit pas du jour au lendemain. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, l'intérêt de ce partenariat avec l'Australie, c'est que ça fait partie des démocraties libérales. On se comprend, entre guillemets. Et là, le choc du retrait des Australiens du contrat... C'est tout cet investissement émotionnel en se disant « mais on se comprend, on travaille ensemble, on a un idéal démocratique et culturel commun » et du jour au lendemain, ça s'arrête. Alors peut-être que la France va devoir aller un peu plus haut, le Japon. On a de très très bons, de très très bonnes relations avec le Japon et le Japon est un précaré américain. Alors peut-être que ça vaudrait la peine de les séduire un peu plus. C'est une grosse puissance industrielle. Culturellement, les Japonais sont très avides de la culture française, se rendent en France en chiffres assez importants.
Et inversement, la France étant le deuxième consommateur mondial de manga. Mais,
Exactement. Et je pense que culturellement, ça nous paraît peut-être lointain, mais à bien des égards, le Japon pourrait être... un élément peut-être clé dans un dispositif de présence de la France dans le Pacifique futur. On a probablement beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que ce qu'on pourrait penser en prime abord en juste simplement le culturel. Bon, le Japon est assez haut dans la zone Pacifique, mais il est localisé de façon clé entre l'Asie et les États-Unis. Il y a probablement d'autres pays, mais c'est vrai que les nations du Pacifique... En réalité, le Sud-Pacifique, comme on dit en anglais, la première puissance, c'est l'Australie. Et l'Océanie est le plus petit continent en termes de population et en termes de revenus. Donc, c'est pas non plus... J'ai vu certains médias français qui disent Trafalgar. Oui, certes, mais enfin, il ne s'agit pas de politique européenne ou de politique africaine ou de politique moyen-orientale. L'Océanie est importante, mais on ne peut pas la comparer à ces autres zones géographiques que j'ai mentionnées.
Ouais. Alors, un dernier point que je voulais aborder avec vous, on va revenir sur et la France et l'Australie, ou plus précisément l'Europe et l'Australie. On sait qu'il y a des négociations qui sont en cours pour signer un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie. Est-ce que cette affaire pourrait remettre en cause ces négociations et la signature d'un accord ?
Très certainement. Effectivement, les négociations continuent. Mais simplement, les traités de libre-échange, en France, il faut qu'ils soient ratifiés par le Parlement. Si le Parlement s'y oppose, vous aurez beau présenter le plus joli ou le traité de libre-échange le plus sympa pour l'Australie et la Grande-Bretagne, il sera caduc, il ne sera pas approuvé. Il y a déjà des personnalités politiques en France, de gauche comme de droite, qui affirment, ou même très clairement s'expriment en ce sens, que les négociations doivent s'arrêter. J'ai vu que Renaud Muselier, le président de la région PACA, a posté sur son compte Twitter qu'il demandait à l'Union européenne d'arrêter les négociations. Bon, Renaud Muselier n'est pas, en charge de la politique européenne de la France. Mais je crois également que le président, M. Christian Cambon, qui est le président de la Commission des affaires étrangères et de défense du Sénat, a été dans le même sens hier également, dans un communiqué de presse. Donc, il y aura un impact. L'Europe peut dire effectivement, non, on va continuer les négociations, tout va bien se passer. Évidemment, l'Europe, c'est une grande... fédération, donc la France n'est pas toute seule. Mais simplement, quand on regarde en termes de poids politique, l'Allemagne a une élection fédérale qui arrive. Il va falloir succéder à la Première Merkel. Monsieur le Président Macron va forcément avoir, jusqu'à la fin de son mandat lui-même, une position probablement prépondérante en Europe. Et il pourrait que cette position soit utilisée pour se rappeler au bon souvenir de nos amis britanniques et de nos amis australiens qui, très clairement, se sont conduits plus comme des adversaires, comme il a été dit par certains ministres français, que comme des alliés. Donc, répercussions, il y aura probablement. Je suis historien, je me prononce rarement sur le futur. Et ces dernières seront à décider, disons, à Paris et puis en concertation avec les élus européens à Bruxelles.
Alors, je vais vous faire une dernière entorse avant qu'on se quitte. En tant qu'historien, vous ne parlez pas sur le futur et pas trop sur le présent non plus, mais pourtant, je vais quand même vous poser la question. Vous êtes donc à l'université Flinders, à Adélaïde. Adélaïde, où devaient être construits ces sous-marins, il y avait plusieurs centaines d'employés de Naval Group qui s'y étaient installés depuis 2016. Et en gros, Adélaïde était gentiment en train de se franciser un petit peu. Vous, en tant qu'Adélaïdois, comment vous voyez tout ça? Ça va redevenir une simple ville anglo-saxonne?
Alors,
même si je sais que c'est bien plus cosmopolite que ça, bien sûr. Pour y être allé une fois, j'ai pu constater qu'il y avait autant de diversité qu'à Sydney ou à Melbourne, par exemple.
Oui, alors à Adélaïde, ça nous attriste très profondément. Très, très profondément. Et moi, personnellement, en tant que Français vivant en Australie et à Adélaïde, je me sens un peu trahi par le gouvernement Marshall qui n'a prévenu personne. Triste, c'est dommage, on se sent vraiment, oui, trahi. Et c'est d'autant plus dommageable que sur les 5 dernières années, depuis 2016, l'Australie méridionale a fait un travail absolument superbe de création de liens avec la France. Il y a même une office de French Strategy au Department of Premier and Cabinet qui a fait un travail exceptionnel ces dernières années pour faciliter l'accueil des Français, pour organiser des événements culturels ici, pour faire venir des entreprises françaises, et il y en a eu plusieurs qui sont venues, pour aider à la formation d'accords universitaires entre les 3 universités de South Australia et les universités en France, de nombreuses universités d'ailleurs. Et puis, par ailleurs, il y a, au plan culturel, il y a également le jumelage avec la région Bretagne. Donc, depuis 2017, on avait l'impression que on vivait cette lune de miel avec l'Australie et ils savent très bien séduire, les Australiens, les Français aussi. Et tout se passait vraiment bien. Il y avait une communauté française. La première fois que je suis venu à Adélaïde, c'était lors d'un échange universitaire. En 2007, les Français, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait même très, très peu. Et là, en ce moment, il y a tout un réseau d'organisations, d'associations françaises et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Alors j'espère que tout cela ne sera qu'ifié à l'hôtel de relations internationales Saugrenues, parce que nos deux pays et nos deux peuples ont encore beaucoup d'amitié à partager, je pense. Il ne faudra pas s'arrêter à ce qui s'est passé avec les sous-marins. Je pense qu'il va falloir que les Australiens nous cajolent un petit moment pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant et continuer à établir des relations avec eux, que ce soit au niveau des universités, des écoles, des musées, des entreprises. Il y a autre chose que les sous-marins dans la vie. C'est très, très important, évidemment. Mais on ne peut pas réduire notre relation à des sous-marins.
Bon, ben, espérons effectivement que ça aille un peu plus loin, parce que si on se limite qu'à ça, effectivement, de fait, il n'y a plus de relation du tout. Donc espérons qu'il y a autre chose. Merci beaucoup, Romain Fati. Merci encore pour toutes ces explications et votre éclairage sur cette actualité qui a beaucoup mouvementé la semaine. Merci.
Je vous remercie.